Ésotérisme expérimental. Avec Richard Glenn. Bonjour à notre 11e rendez-vous à cette station 1570 AM Radio Mieux-Être. Je vous propose de faire la rencontre de l'invité qui a le plus impressionné le public de l'époque du siècle dernier, lorsque Ésotérisme expérimental était diffusé sur presque tous les réseaux de câbles au Québec. Il s'agit de rencontrer aujourd'hui M. Bernard de Montréal. Évidemment, c'est un nom de plume. Il voulait garder son nom de famille personnel, privé, pour sa famille. Et déjà, à la fin des années 70, au tout début de mes émissions sur le câble, j'avais présenté ce personnage impressionnant par le fait qu'il parlait en français. Les gens assistaient à des conférences à tous les mois. Ils disaient, c'est curieux, il nous parle en français, puis on ne comprend pas ce qu'il dit. Les années étant passées, ça fait 35 ans maintenant, je vais vous faire entendre l'émission de radio que j'avais à l'époque sur toute la région du Grand Montréal à CKVL, intitulée « Mondes insolites ». Eh bien oui, c'était un des invités que j'avais présenté au grand public à la radio, et comme nous sommes maintenant aussi à la radio, j'ai pensé que c'était tout à fait de bon aloi de vous le présenter, la même émission. À plusieurs reprises au cours de l'année, on réentendra des conférences de Bernard que j'expliquerai si nécessaire, parce que je crois que depuis l'époque, les gens ont maintenant une culture ésotérique. Les termes, on les connaît, le voyage astral, autrefois on se demandait de quoi ça parlait. Là, il va parler beaucoup du plan éthérique, de la fusion avec les plans supérieurs. Et quand lui parle des extraterrestres, il ne parle pas nécessairement des petits hommes verts ou des petits gris, là. Alors, on va faire la rencontre aujourd'hui, pendant toute l'heure, avec Bernard de Montréal. Quand on disait dans les textes prophétiques, un jour les morts parleront aux vivants. Ben, je pense que ça va être le cas maintenant, puisqu'il est décédé en 2003 précisément. Écoutons maintenant Bernard de Montréal avec des propos présentés au début des années 80 qui sont toujours, mais toujours autant d'actualité.
On doit faire une parenthèse avant de débuter, et cette parenthèse est aussi importante que ce qui sera dit dans les minutes qui viennent. La raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation, c'est pour permettre à un plus grand nombre de personnes de comprendre ce qui ne se comprend pas, de pouvoir établir des relations psychologique avec le paranormal ou le supramental qui, pour ces personnes, surtout les personnes plus sensibles, pourrait leur donner, éventuellement, l'occasion de sentir, soit en eux-mêmes ou à l'extérieur d'eux-mêmes, des aspects d'une réalité qui se superimpose sur l'espace-temps dans lequel nous baignons. L'homme a de la difficulté de comprendre ce qui existe au-delà de ses facultés sensorielles normales. Et ça, c'est normal. Nous vivons dans un espace clos et nous n'avons pas la vibration en général pour nous projeter d'une façon stable et d'une façon normale et d'une façon plaisante dans des mondes qui sont parallèles aux nôtres, mais qui, à cause de leur dimension suprasensible, sont régis par des lois qui les protègent.
Est-ce qu'on a aussi des lois qui nous protègent, nous aussi?
Oui, nous avons des lois qui nous protègent. Chaque plan, chaque monde, chaque univers clos a ses propres lois. Et ces lois sont très rigides, elles sont fixes. Ce sont des lois physiques. Et si ces lois n'existaient pas, il n'y aurait pas de possibilité à l'homme d'évoluer sur le plan matériel physique. Parce que l'homme, à cause de son esprit, à cause de son âme, tend toujours à retourner à sa source, à son origine. Si les lois de la matière n'étaient pas établies de la façon que nous connaissons, c'est-à-dire de la façon où nous les sentons, de la façon où elles nous emprisonnent, l'homme aurait tendance à mourir facilement. Et l'homme ne doit pas mourir facilement parce que l'homme doit faire l'expérience de la vie matérielle afin de donner aux autres aspects de lui-même, qu'on appelle par tradition l'âme, une capacité d'évolution qui fait partie d'un plan plus vaste d'évolution au niveau de la galaxie.
Il faudrait peut-être demain commencer par définir certains termes, comme j'aimerais qu'on commence par définir l'espace, temps, ensuite la vie, l'âme.
À chaque niveau de l'universel, il y a des espaces et des temps. Sur le plan physique, sur le plan matériel, nous avons un espace qui est conditionné par le temps psychologique de l'homme. L'homme ne vit pas le temps réel. L'homme vit un temps qui est approximativement équivalent dans la longitude de la lumière à la quantité d'énergie qui pénètre dans ses neurones à chaque instant de sa vie. Sur le plan de ce que l'on appelle aujourd'hui l'immatériel, le temps est beaucoup plus vaste. Ce qui est espace pour nous, ici, sur le plan physique, dans les autres dimensions, c'est le temps. C'est une des raisons pour laquelle l'homme a beaucoup de difficultés à concevoir, surtout les scientifiques, qu'une civilisation avancée puisse voyager à partir d'une planète qui est localisée dans la galaxie à 40 millions d'années-lumière et venir ici dans une période très courte.
Oui, on se demande toujours comment font les soucoupes volantes, disons, c'est le yen d'une autre galaxie ou d'un autre système solaire, qui sont quand même très loin, très éloignées d'ici.
C'est-à-dire qu'elles sont loin en relation avec notre concept de la distance. Mais les civilisations à l'extérieur de notre espace-temps n'ont pas le problème de distance. Le problème de distance n'existe pas pour eux, parce que lorsqu'ils se déplacent d'un plan à un autre, autrement dit, d'un univers à un autre, ils doivent changer de plan vibratoire. Alors le problème de distance n'existe pas parce que le problème spatial n'existe pas. Ils changent les vibrations de leur système de transport, automatiquement les vibrations de leur propre corps physique sont altérées, et ils se mettent en relation vibratoire avec notre système ici, et il y a ce qu'on appelle un découchement parallèle qui se fait, qui leur permet de voyager dans la galaxie à très haute vitesse. D'ailleurs, le concept de vitesse n'existe pas au niveau des soucoupes volantes.
La vitesse, c'est l'espace multiplié par le temps.
La vitesse, le concept de vitesse que nous avons sur le plan physique ici, ce qui nous est enseigné dans l'université, c'est un concept vectoriel. C'est un concept qui nous permet d'établir une relation entre le temps psychologique humain et le déplacement qui s'effectue à l'intérieur d'une zone quelconque. Mais lorsque ces intelligences, ces peuples, ces races voyagent de leur planète à la nôtre, ils ne conçoivent pas le concept de la vitesse. Malgré que leurs systèmes sont manipulés par des moyens mécaniques qui varient suivant les civilisations, le tout dans sa modulation est attribué au changement vibratoire. Ce sont les changements vibratoires qui leur permettent de passer d'une couche éthérique à une autre couche éthérique pour enfin en arriver dans notre zone ici, à se matérialiser s'ils le veulent ou à demeurer dans l'éthérique en suspension.
C'est ce qui fait dire à certaines personnes qu'on les voit et qu'ils disparaissent, ou qu'ils apparaissent tout simplement.
C'est juste, dans plusieurs cas de personnes qui sont entrées en contact visuel avec ces races, ils s'aperçoivent que lorsqu'ils partent, ils partent, et tout d'un coup, oups, ils ne sont plus là. Ou quand ils apparaissent d'une façon très spontanée. C'est-à-dire qu'ils passent d'un plan vibratoire éthérique à un plan matériel physique. Et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de dématérialisation.
On les voit souvent aussi dans un éclat de lumière, puis disparaître aussi dans un éclat de lumière.
Oui, parce que dans le monde éthérique, sur le plan éthérique, ce qu'on appelle, j'emploie le plan éthérique présentement, j'emploie ce terme parce que c'est un terme qui est connu, c'est un terme que l'on entend un peu partout dans le monde, surtout dans le domaine ésotérique. Mais le plan éthérique, c'est un plan où l'oxygène est parfaitement instable. La science n'a pas découvert l'oxygène instable encore, parce que lorsque nous avons un élément sur le plan physique, éthérique, ou sur les différentes couches vibratoires, les éléments existent. Et on peut les retrouver, ces éléments-là, à tous les niveaux de vibration.
Mais là, nous en étions à parler des apparences, des apparitions, des disparitions. Dans le phénomène des êtres extraterrestres, il n'y a quand même pas qu'une seule sorte d'être extraterrestre.
Le concept de nous avons ici un concept qui nous aide à nous différencier de ce qui peut se passer, disons, dans le monde de l'insolite. Mais il y a des planètes dans la galaxie qui sont très très variées, et les êtres qui évoluent sur ces planètes-là, dans certains cas, ont des rapports très étroits avec l'homme de la Terre. L'homme a l'impression que il est encapsulé dans une planète et qu'il appartient à cette planète. Et ça, c'est une erreur, parce qu'il y a des hommes sur cette planète ici, présentement, qui ont évolué sur d'autres planètes avant.
Dans d'autres vies.
Dans d'autres vies, qui ont eu des expériences dans des espaces qui sont très, très éloignés des nôtres. Les hommes très évolués, les grands hommes, ce qu'on appelle les grands hommes, qui ont marqué de leur personnalité l'histoire humaine, souvent ont eu des expériences, des évolutions dans ces systèmes-là. Et leur grande sagesse provient du fait, justement, qu'ils avaient déjà compris beaucoup de choses. Alors, c'est très important pour les gens de comprendre que les hommes physiques de la planète Terre ont des âmes qui ont très, très bien pu participer à l'évolution dans des systèmes extérieurs au système solaire.
Mais qu'est-ce que l'âme?
L'âme, c'est un concept qui ne sera pas compris tant que l'homme n'aura pas contact avec l'éthérique. Je vais vous en expliquer les aspects que je connais, mais tant que l'homme ne pourra pas se voir d'une façon intégrale, il ne pourra pas comprendre ce que c'est que l'âme. L'âme, le concept de l'âme a été mystifié par la religion. Il a été mystifié par les doctrines ésotériques. Et c'est très normal, parce que l'homme, lorsqu'il pense, il pense avec sa tête, mais aussi avec ses émotions. L'homme ne peut pas regarder froidement la réalité, parce qu'il a besoin de la réalité qu'il connaît pour sécuriser son être, sa vie et tout ça. Si l'homme, quand je parle de l'homme, je parle des masses en général, de tous ces millions d'êtres qui parcourent les chemins de notre planète, s'ils étaient en contact avec la réalité telle qu'elle est, leur psychisme, leur esprit, leur faculté normale s'amoindrisserait, et ces gens-là souffriraient de leur expérience, en général. Alors, en ce qui concerne l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est équivalent à un transformateur. C'est un centre d'énergie très puissant, qui est parfait. Mais c'est un système d'énergie en évolution. C'est-à-dire que l'âme, telle qu'elle est aujourd'hui chez un individu, a parcouru pendant un certain temps, des étapes évolutionnaires sur telle ou telle planète. Et arrive à un certain niveau d'évolution, à ce moment-là, l'âme peut être ce qu'on pourrait appeler en communication directe avec ce qu'on appelle encore des ajusteurs de pensée. Alors, dans l'univers, il y a les hommes ou les extraterrestres, c'est la même chose, même s'ils ont des facultés permanentes différentes. L'homme n'a pas encore le contrôle de la matière, les extraterrestres ont le contrôle de la matière, mais au-delà des extraterrestres, il y a ce qu'on appelle les ajusteurs de pensée. Et les ajusteurs de pensée sont encore des âmes très évoluées, parfaites, mais qui n'ont pas besoin de parcourir le sentier de l'évolution, c'est-à-dire de s'incarner. Autrement dit, ce sont des désincarnés, et ils demeureront toujours des désincarnés. Tandis que les extraterrestres sont désincarnés, comme l'homme est un incarné. C'est pour ça que je n'aime pas, ce n'est pas une reproche que je vous fais, mais c'est pour faire allusion au fait que l'on parle des extraterrestres et que l'on parle des hommes, comme si c'était deux paires de manches différentes. Lorsque l'homme aura le contrôle sur la matière, lorsque l'homme pourra créer des véhicules éthériques, lorsque l'homme pourra contrôler son temps, parce que l'homme ne contrôle pas le temps, il est assujetti à un temps psychologique qui est totalement anormal, mais lorsque l'homme pourra contrôler son temps et qu'il pourra voyager dans la galaxie et rencontrer ces êtres-là et échanger et communiquer avec eux, appartenir à la Confédération galactique, à ce moment-là, l'homme ne parlera pas d'extraterrestres. Si on parle des Américains, ce ne sont pas des extraterrestres. Il y a des Américains là, il y a des Français là, il y a des Allemands là, mais c'est la même chose au niveau de la galaxie. Et ça s'en vient. Une des raisons pour laquelle je suis venu à la radio, c'est pour faire comprendre aux gens, lentement, il n'y a pas de presse, qu'il y a des événements dans le monde qui se développent, quelle que soit l'attitude des masses, ou quelle que soit l'attitude des organisations, ou quelle que soit l'attitude des gouvernements ou des systèmes militaires, rien ne peut empêcher le fait que l'homme entrera en contact politique, scientifique, avec les civilisations d'outre-espace. Ça, c'est établi, c'est connu de tous ceux qui ont eu des contacts, mais ce n'est pas important pour moi personnellement de prendre une position d'évangélisation. Je veux bien parler de ce que je reçois par transmission pour le bénéfice des individus, sans pour cela prendre une position d'autorité ou une position de vente. Je ne suis pas un vendeur. Je conçois que le processus sera très lent, et c'est normal. Mais je sais que le processus est inexorable, qu'il a existé dans le passé, et que ça fait partie des plans de l'évolution de la planète Terre, d'entrer en contact avec les extraterrestres. Maintenant, la responsabilité est avec les gouvernements et les organisations scientifiques ou parascientifiques. Les scientifiques ont une responsabilité vis-à-vis l'homme, et les gouvernements ont une responsabilité vis-à-vis les peuples, et c'est de former des comités. C'est normal, un type qui est dans le gouvernement ne peut pas, s'il n'a pas, pour une raison ou une autre, une expérience quelconque, ou le tempérament qui va avec ça, n'a pas à être intéressé au phénomène OVNI. Mais il y a des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans les organisations scientifiques qui sont intéressés à ça. Il y a des individus qui sont des individus qu'on appelle respectables, des médecins, des policiers, des scientifiques qui ont vu des ovnis. Il y a des gens qui les ont photographiés. Et c'est la responsabilité des gouvernements et des organisations d'amener cette information-là au public, petit à petit, de faire de la recherche sincère, au lieu de dénigrer le phénomène, parce qu'il ne faut pas prendre des gens pour des caves.
On sait qu'en Italie, actuellement, il y a comme une vague au Venezuela.
Présentement, en Italie, il y a une vague d'UFO. D'ailleurs, il y a eu un reportage sur les nouvelles dernièrement, ce qui est absolument fantastique, parce que c'est assez rare que ça débouche sur les nouvelles. Ce sont toujours des gens qui sont marginaux qui amènent les nouvelles à des gens marginaux. Mais l'Italie est très importante. Ceux qui ont lu, ou ceux qui sont conscients du rapport qui a été fait, dans le manuscrit de Jean 23, le pape décédé, le pape mentionne très bien dans son manuscrit qui a été légué à Pierre Carpi, que éventuellement il y aura dans le ciel des lumières blanches, vertes et bleues qui se déplaceront à grande vitesse. Quand le pape a parlé en 1935, quand il a fait ce manuscrit-là, alors qu'il faisait partie des Templiers, qui est une société secrète, le pape a très bien dit des lumières qui se déplaceront dans le ciel. Le concept d'OVNI, le concept d'UFO n'existait pas dans ce temps-là. Les gens qui ont des yeux, qui ont de l'intelligence, ou qui sont informés, se doivent de prendre sérieusement ce qu'un pape dit, parce qu'un pape a un certain niveau de crédibilité.
Et l'ONU aussi.
Je vous ai transmis ce matin un document concernant les Nations Unies. Il y a des efforts qui sont faits présentement au niveau des Nations Unies pour former un comité scientifique et aider à voir clair dans cette chose. Le problème avec les scientifiques, ça c'est l'argumentation qu'on nous donne, c'est que ils n'ont pas de méthodologie scientifique pour étudier les UFO. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas parce que tu n'as pas une mesure pour mesurer l'œuf que tu dois dire mais l'œuf n'existe pas.
Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Bernard de Montréal qui nous parle des contactés et de son rôle à lui.
Un type qui a contact avec des extraterrestres a contact avec des extraterrestres. Il maintient son identité, sa personnalité. Alors, même s'il est donné un message à ce type-là, lui, il a la faculté psychologique qui lui incombe de transmettre ce message-là, et cette faculté psychologique-là fait partie de son tempérament. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Si j'entrerais en contact demain matin avec une civilisation qui vient d'un autre niveau, et qu'on me dirait « il va se passer telle chose », je garde la disponibilité de mon propre champ d'énergie. Autrement dit, je ne veux pas aller dans les détails de ça, mais moi, je ne peux pas être magnétisé mentalement. C'est-à-dire que l'hypnose, même au niveau de ces gens-là, ou l'influence psychologique ne peut pas fonctionner. Parce que lorsque le contact s'est fait avec moi, mon intellect a été neutralisé. Je n'ai pas besoin de penser pour fonctionner au niveau mental. C'est ça qu'on appelle le supramental. Mais un type qui doit penser, qui doit se servir de ses émotions pour activer sa personnalité d'une façon normale, est sujet aux lois mécaniques de la pensée mécanique et de l'émotion mécanique. Alors, automatiquement, même si on lui transmet un message qui est de haute valeur, à cause de son humanité, à cause de sa subjectivité, il peut, dans des cas qu'on connaît même, traduire ce message-là en bouffonnerie. Ou il peut le traduire d'une façon très sérieuse. Ça dépend de l'individu. Ce n'est pas le message des extraterrestres qui est dommageable à l'image des extraterrestres. C'est la façon dont s'y prennent les individus récepteurs qui transmettent au public ces images. Et ça, c'est un domaine qui est très délicat. Moi, j'appelle ça des erreurs psychologiques. Si tu parles à un homme de quelque chose, ou si tu parles à une assemblée de quelque chose, pour en arriver à pouvoir traduire ce que tu veux dire et permettre que ce que tu dis soit totalement reçu avec dans une bonne ambiance psychologique, il faut absolument que tu sois neutre. Si tu veux vendre quelque chose, si tu veux imposer quelque chose, si tu veux agir autrement dit avec une certaine autorité, tu recevra automatiquement des réactions des autres. Ça, c'est normal, parce que les égos, aujourd'hui, les égos humains, sont opaques. Ils ne sont pas translucides. C'est la raison pour laquelle je ne permettrai jamais qu'une personne m'interviewe que toi et une autre personne que je connais. Parce que si je veux traduire vers l'extérieur ce que je veux dire, il faut qu'il y ait une empathie vibratoire. Si un type veut me mettre en boîte, je ne me laisserai pas mettre en boîte. On ne peut pas me mettre en boîte parce que je ne me sers pas de mes émotions pour conditionner mon savoir. Je fais ce que je fais avec plaisir. Je donne ce que je peux donner au niveau de l'information pour aider des gens à comprendre des domaines qui sont un peu perplexes, complexes, subtils. Et ça s'arrête là. On veut pas. Moi, ça change rien. Tandis que dans le cas d'autres personnes qui ont été contactées, ils ont ce qu'ils appellent des missions. Le moment que tu as une mission, tu es sujet à une interprétation personnelle de ta relation avec le monde.
Sans juger le cas de Claude Vorion, qui a, dit-il lui-même, eu des missions ou un contact, et qui aujourd'hui réclame de l'argent pour que les gens fassent partie d'un mouvement, qui se procure aussi des médaillons, qui achètent des livres, etc., etc. Ça devient vraiment quelque chose de très commercial.
Ça fait partie de la psychologie de tout ce mouvement. Moi, je ne peux pas faire de commentaires sur Claude Vorion. Personnellement, entre personnes d'une façon privée, je pourrais parler jusqu'à un certain point, mais ce que Claude Vorion fait, c'est ce que Claude Vorion fait. Et ce qu'il fait peut être accepté par certaines personnes, rejeté par d'autres, mais en ce qui me concerne, ça n'a aucune importance. Ça fait partie de son travail, mais en relation avec son tempérament. Si je fais une parenthèse, moi, je rencontre des extraterrestres, nous communiquons par télépathie, mais on ne m'impose rien. Parce que l'homme, essentiellement, il est libre et il doit être libre. Et ça, je veux en parler. Le danger de l'humanité, qui va être vécu d'une façon très intense, c'est que les hommes ne seront pas préparés au contact avec les extraterrestres. Alors, les extraterrestres seront pour les hommes des dieux.
Comme autrefois.
Ouais. L'homme est libre. L'homme a le pouvoir de fonctionner d'une façon intégrale, autonome et créative. Il n'a pas recouvert ses pouvoirs, il les recouvrira éventuellement. Mais lorsque ceci sera fait, il devra être totalement indépendant. Sans ça, la planète entière peut y passer. Et c'est très connu dans les milieux occultes. Ce qui est un autre terme que je n'aime pas, mais je dois m'en servir pour expliquer un terrain fermé. C'est très connu dans les milieux occultes qu'il y a des extraterrestres, autrement dit des civilisations, qui s'intéressent à l'évolution de l'homme, qui travailleront avec nous au niveau des sciences, et qu'il y en a d'autres qui sont retardataires, qui ne veulent pas que l'homme participe à l'évolution de la science dans la galaxie. Parce que l'homme vit encore aujourd'hui le principe de tuer. On n'a pas le droit de tuer. Et tuer, ça fait partie de notre vie chaque jour. Alors, ce qui se produira, c'est que les extraterrestres viendront en grand nombre, et les gens qui ont de bonnes vibrations, ce qu'on appelle des bonnes vibrations, c'est-à-dire que les gens qui ont une âme évoluée, seront absorbés dans ces systèmes-là, et il y aura une transmutation moléculaire de leur corps, de tous leurs principes, et à ce moment-là, ces gens-là pourront revenir sur le plan physique et fonctionner d'une façon harmonieuse entre eux et avec eux. Les gens qui ne pourront pas prendre le choc, ce qui est une grande majorité de la population humaine, sévira dans le processus. Et ça, ça fait partie de ce que les gens appelaient dans le passé la fin des temps. Ce n'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un cycle d'évolution. Il y en a eu un il y a 12 000 années dans le passé avec l'Atlantide, et il y en a un qui vient, et il y en aura d'autres. Ça fait partie de l'évolution.
Celui qui vient, est-ce qu'il vient avant la fin du siècle?
Celui qui vient, viendra quand ce sera le temps. Il y a personne qui le sait. On a des idées, des dates approximatives qui nous sont données, mais rien n'est dévoilé. Un type qui vous dit que ça se produira à telle date, vous verrez que ça ne se produira pas à cette date-là. Il y a des choses qui vont se produire dans cet environnement-là. Mais la date précise, c'est caché, il n'y a pas un homme qui le sait. Parce que ça fait partie des secrets cosmiques. Et vivre avec ça dans la tête, ce n'est pas plaisant.
De retour dans quelques instants, après cette pause. Nous sommes de retour à l'émission Ésotérisme expérimental. Notre invité, Bernard de Montréal. Il nous propose une perception tout à fait originale de la présence des extraterrestres aujourd'hui et dans le passé, à l'époque du paradis terrestre. Comment peut-il l'expliquer?
Bon, mais là, on tombe dans un passé qui est totalement inconnu du public. Ce qui était le paradis terrestre dans le passé, ce qui était la relation entre Adam et Ève, qu'on appelle dans la Bible, et les entités tout espace, c'est une situation qui est totalement occulte. Et pour parler de ça, ça nécessite une émission complète. Si on entre dans ce domaine-là, on n'en finira pas. Mais je peux dire que il y a eu des relations dans le passé entre Adam et Ève et des plans d'intelligence supérieure. Ce qu'on appelle, par exemple, dans notre monde, Satan, ce personnage fait partie d'une hiérarchie dans le cosmos. Seulement, la raison pour laquelle je n'aime pas parler de ces choses-là en public trop, c'est que il y a une dimension émotive à tous ces concepts. L'âme, l'esprit, Satan, le bon, le mauvais, tous les thèmes qu'on emploie sont empreints d'émotion. Et si on parle de ces choses-là, il faut en parler d'une façon totalement supramentale. Et si on le fait à ce moment-là, on tombe dans la compréhension aisée et relativement relaxe de la cosmogonie galactique. Et à ce moment-là, tout est très simple, parce que les mystères n'existent pas. Les mystères existent tant que l'homme pense. Une fois que l'homme cesse de penser, il n'y a plus de mystère.
Mais comment prendre les choses, comment entrer en relation avec les choses si ce n'est pas par la pensée?
On entre en relation avec les choses de différentes façons. Un homme qui a été, par exemple, initié au choc, j'appelle ça initié au choc, à ce moment-là, la faculté normale de pensée qu'il possède et la faculté normale de mémoire qu'il possède est éliminée. Parce que déjà, son mental est changé de vibration. Il ne fonctionne plus au niveau du mental, il fonctionne au niveau du supramental. Alors, le supramental, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et son ego, à lui. Alors, s'il a besoin d'informations, et s'il doit avoir cette information lui est fournie. Alors, il n'a plus besoin de mémoire. Il y a toujours la mémoire, parce que l'homme n'oublie jamais son expérience. Mais dans le cas, dans l'instantané de son expérience, il n'a pas de besoin de mémoire, il n'a pas besoin de se rappeler ce qu'il a dit, il n'a pas besoin de penser à ce qu'il va dire. Tout vient, c'est une communication instantanée. Et ça, c'est normal. Et éventuellement, ce sera comme ça. Je ne suis pas un phénomène, moi. Seulement que mon expérience antidate peut-être l'expérience de d'autres personnes. Mais il y a des gens sur le plan physique ici qui ont une grande sensibilité à cette expérience-là.
Bernard, vous êtes vous-même dans un certain cercle, soi-disant occulte, dans le sens qu'il est caché au grand public, mais qui fait référence à des hommes de science, du
Oui.
gouvernement et
Oui.
ailleurs.
Je travaille précisément en relation avec des organismes ou des individus qui sont à différents piliers de l'ordre scientifique et de l'ordre politique pour faciliter justement ce que je fais maintenant, pour amener les gens à faire des études objectives sur les UFO ou amener des politiciens à comprendre objectivement le phénomène pour éventuellement aider les masses mondiale à comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène de l'UFO, à le démystifier et à permettre aux gens de bénéficier de la compréhension de certains adeptes concernant ce phénomène. Parce que le phénomène d'OVNI, c'est le phénomène le plus important du siècle. C'est le phénomène du siècle. Et petit à petit, on va voir qu'il y aura un accroissement des phénomènes, un accroissement, un accroissement, un accroissement.
Toujours avec Bernard, ce contacté du Québec, ce contact qui a eu lieu en 1969. Lors de ce contact, est-ce que vraiment vous avez été totalement bouleversé et est-ce que ça a duré longtemps, les effets du contact, si on veut?
Oui, d'abord le contact s'est fait d'une façon instantanée et les effets du contact ont demeuré pendant une période de 7 années.
Et vous êtes marié?
Oui, je suis marié, j'ai une petite fille. Et puis, le contact avec le supramental change la vie d'un individu d'une façon totale. D'abord parce qu'on perd notre faculté de penser. Alors, quand on est habitué pendant 29 ans à penser, et que tout à coup, on se fait dire quoi faire,
ça change la personnalité. Vous savez, Bernard, je vous regarde puis vous me faites penser au type dans le film Rencontre du troisième type, ce type qui, le jour où il a eu un contact, il était complètement bouleversé, il avait qu'une obsession, qu'une idée en tête, des idées qui lui étaient télépathiques, si on veut, ou téléguidées, jusqu'au point de se construire une montagne dans un salon. Mais votre épouse, comment a-t-elle réagi à ce nouveau personnage qu'elle avait dans sa vie?
C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Montréal, d'abord quand j'ai été contacté, il a fallu que je m'expatrie un peu pendant quelques mois. Et puis quand je suis revenu à Montréal, mon épouse, je la connaissais déjà. Je n'étais pas marié encore. Mais tout m'était indiqué. À ce moment-là, parce que dans un état comme ça, il faut avoir une femme qui a beaucoup de compréhension, une femme qui est sage, une femme qui est bonne, une femme qui est patiente, une femme qui peut, pendant longtemps, pendant des années, même si elle ne le sait pas, elle, subir le joug de cette transformation en profondeur. Et puis, tout s'est fait d'une façon très très normale, parce que on est donné beaucoup de force, on est aidé. Et le fait qu'on sait ce qui se passe avec soi-même, ça facilite les choses. Mais ça ne facilite pas nos relations avec les hommes. Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à un état de stabilité vibratoire, où le mental il est calme, l'émotion il est stable, l'éthérique stable. Et à ce moment-là, là tu peux commencer à travailler avec les hommes et faire un certain chemin ensemble. Et là c'est facile parce que tu n'as pas l'ego qui fait interférence dans le processus.
Mais cet ego, justement, cet ego, je sais qu'en psychologie, on considère que l'être humain se divise en différentes étapes, le moi, le soi, le je, l'ego.
Ce que l'homme appelle l'ego en psychologie, c'est ce qu'on pourrait appeler la petite manifestation de la grande manifestation. Mais l'homme n'est pas conscient de la grande manifestation. Il fonctionne toujours sur... C'est comme vous avez une patinoire. Le type, il patine pendant 20 ans sur la patinoire. Il ne réalise pas que la patinoire, elle est sur un plus grand terrain. Il s'imagine que ça fait 20 ans qu'il fait du patinage sur la patinoire. Il est dans l'illusion d'être dans la patinoire. Mais dans le fond, il est supporté par le grand terrain.
Ou comme le poisson dans son aquarium, j'imagine que l'univers finit à la vitre.
Derrière l'homme qui pense, il y a un penseur. Mm-hmm. Mais l'homme maintient son identité par le fait, ou son ego, par le fait qu'il a l'impression que c'est lui qui pense. Et souvent il va dire, oh, on dirait que c'est pas moi qui a pensé ça. Là, c'est là que vient, il appelle ça de l'intuition. L'intuition, c'est un niveau inférieur de cette communication télépathique cosmique. Si les channels étaient ouverts, d'une façon totale, l'homme entrerait en contact télépathique mental précis avec d'autres intelligences sur d'autres niveaux d'évolution. Et à ce moment-là, il fait autre chose.
Il y a une image qui est souvent utilisée lorsqu'on pense avoir une idée. On allume une lumière au-dessus de la tête de quelqu'un.
Oui. C'est une image symbolique qui représente bien que l'idée est une chose qui provient instantanément, comme d'ailleurs. C'est justement ça. Si on observait en plus grande profondeur les symboles de nos expressions, on verrait qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de nous dire des autres plans, mais que l'ego ne voit pas parce que justement il y a cette densité, il y a cette illusion qui persiste. Et quand vous établissez ça au niveau de la science, des armements, du contrôle des terrains et des ovnis, vous voyez que le problème des ovnis devient un problème très très important. Parce que les égos humains, les égos militaires, les égos en puissance ne veulent pas admettre qu'il y a d'autres intelligences. On dit oui, c'est normal, statistiquement, il devrait y avoir tant de planètes dans l'univers habité, mais ça c'est de la foutaise, c'est de l'intellectualisme. Parce que ça ne dit rien. Et lorsqu'on a des faits devant les yeux qui sont probants, qui sont plus près de nous, que la statistique, on se refuse pour toutes sortes de raisons. On ne veut pas parler de statut, on ne veut pas parler de face, on ne veut pas... Un type qui est en puissance, un type qui est dans la politique, un type qui est chef chez les militaires, il ne veut pas parler de face. L'homme a un côté en lui qui est mâle, qui est robuste, qui est solide, il ne veut pas prendre les petites histoires, les petites conneries du paysan du Japon ou du paysan d'Amérique du Sud qui est entré en contact avec les ovnis. Et ils vont dire, pourquoi les ovnis ne viennent pas nous voir, nous, qui sommes les militaires? Parce que si les ovnis venaient les voir, eux, dans les champs d'aviation, qui sont les militaires, soit qu'ils feraient la bagarre, ou qu'ils fermeraient totalement le dossier. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Alors, l'ego de l'homme, c'est le plus grand problème de l'homme. Ce qui manque le plus sur la planète Terre, c'est la psychologie. Et l'homme aura la grande psychologie universelle lorsqu'il sera fusionné avec ses autres centres d'énergie. La vie, elle est très simple, très facile. Mais l'homme doit comprendre la vie. Et tu ne peux pas comprendre la vie avec de la psychologie humaine. Parce que de la psychologie humaine, c'est trop encore trop primitif.
Nous retrouvons Bernard de Montréal dans un instant.
Bernard, la question de 5 millions de dollars, à savoir, et Jésus-Christ, à travers toutes ces expériences d'ovnis, d'extraterrestres. On a très peur actuellement que les gens fassent une nouvelle religion, au lieu que ce soit une religion de spiritualité pure avec les anges et puis l'invisible, que ça devienne une religion à base de scientifisme ovni, extraterrestre. Ça nous rejoint un peu plus aujourd'hui avec nous, la science et les deux pieds sur la terre. Mais Jésus-Christ, pour en contacter.
D'abord, le Jésus-Christ ou le Christ, c'est un initié. Et puis, d'interpréter sa venue, son travail en tant qu'initié, et en relation avec le phénomène OVNI, c'est pour le moment prématuré.
On est allé très loin la semaine dernière. On a même parlé de l'étoile des bergers qui pouvait être autre chose qu'une étoile.
Oui, oui. Mais en ce qui me concerne, je ne veux pas bouleverser les choses. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que il y a dans la population des gens qui ont mené une vie pendant des années. Il y a l'Église, il y a des ordres qui existent, des ordres qui sont même très nécessaires aujourd'hui parce que le monde est en chaos. Et il y a nos parents, les gens qui sont de caractère religieux, qui vont à l'Église et tout ça. Ce n'est pas nécessaire de bouleverser ces personnes-là avec des connaissances qui sont à moitié claires. Ceux qui connaissent les aspects cachés du Nazaréen ne peuvent pas en parler. Parce que les aspects cachés du Nazaréen sont des aspects qui doivent demeurer cachés, et l'homme connaîtra ces aspects-là lorsqu'il aura contact avec l'éthérique.
On sait que Jésus-Christ est passé en Égypte. Lors de la fuite en Égypte, on sait que Jésus-Christ a eu une vie cachée pendant un certain temps. On sait qu'il est allé 40 jours dans un endroit désert.
Ce qu'on sait, ce qui est écrit, si c'est vérifié, qu'on s'en serve pour sa propre éducation. Moi, je ne veux pas en parler. En public. Les raisons sont très simples. Il ne s'agit pas de mélanger la religion avec les ovnis. Il s'agit de faire comprendre aux gens le phénomène OVNI. Alors, ma position, c'est de laisser la religion intacte au niveau public, au niveau diffusion publique. Il y a des gens qui peuvent s'occuper de ces questions-là, qui peuvent faire de la recherche ou quoi que ce soit. Et de jeter de la lumière sur le phénomène OVNI. Lorsque les gens auront, par expérience, établi des rapports de plus en plus précis, des rapports de plus en plus occultes, des rapports de plus en plus transcendantaux, ils font eux-mêmes leur propre compréhension. Mais je ne veux pas, moi, servir de guide et de lumière dans cette direction.
Bon.
Dans cette même veine de pensée, J'avertis surtout les gens qui s'occupent d'ésotérisme, qui vont dans ce qu'on appelle les plans astraux, les gens qui font des voyages, que l'univers est divisé en trois champs de force. Il y a ce qu'on appelle l'univers de l'esprit pur, il y a l'univers astral et il y a l'univers éthérique. Dans la condition présente de l'humanité, ce qui empêche le contact de l'univers le plus bas avec l'univers le plus haut, c'est la couche astrale. La couche astrale, elle est créée par l'émotionnalité, la subjectivité humaine. Et elle est très dense présentement, même pour les gens qui peuvent aller dans ces mondes, ils le savent. Maintenant, il y a des intelligences qui se servent de ces énergies-là pour projeter dans notre espace-temps des soucoupes volantes, des ovnis. Ces ovnis ne sont pas réels. Ces ovnis peuvent être photographiés, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des projections mentales. Et ce sont ces entités, ces civilisations retardataires dont je parlais au début, qui sèment de la confusion dans l'esprit humain. Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle, et ces gens-là sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle se forceront dans une direction, ils s'isoleront d'une façon totale, mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Ce que certains ésotéristes appellent la sixième race. Et le développement de la sixième race est déjà commencé. Et les gens qui font partie de cette nouvelle race, qui est une race supramentale, télépathique, à coefficient moléculaire très développé, pourra éventuellement vivre dans l'éthérique.
Ce combat se joue entre qui et qui actuellement?
Ce combat se joue entre les forces de différents astros. Il y a plusieurs astros. Ces différentes zones astrales sont contrôlées par des forces plus ou moins intelligentes. Les forces très intelligentes ne participent pas à l'astral. Ils sont au-delà de l'astral. Mais il y a des forces plus ou moins intelligentes qui contrôlent, qui sont en combat constamment, et la planète Terre fait partie de l'astral ouest. Et l'astral ouest, présentement, est en conflit constant, et l'homme, éventuellement, en subira les conséquences. Parce que si ce qui est produit dans l'astral au niveau émotivité humaine doit retomber éventuellement dans l'expérience de l'homme. C'est pour ça que l'homme doit souffrir avant le passage de l'autre côté. D'ailleurs, dans la révélation de Saint-Jean, c'est mentionné. Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre verront très bien que dans la révélation de Jean, parce qu'oubliez pas hein, que les prophètes de l'ancien temps étaient des psychiques. C'était des gens de haute sensibilité. C'était des gens qui avaient contact avec des forces très évoluées, qui leur donnaient de l'information. Mais naturellement, ils écrivaient ça dans des termes, dans une symbologie de leur temps. Aujourd'hui, ça nous apparaît comme quétaine, mais c'est très précis.
Des gens qui auraient peut-être peur de dire, ben oui, peut-être ce type-là est en relation avec des mondes invisibles, d'accord, mais peut-être des mondes invisibles négatifs ou dangereux ou maléfiques.
C'est une très bonne question. Un type qui rencontre, disons, une autre personne comme moi-même, doit faire une chose au début, c'est ne pas la croire. Parce que si on croit une personne, automatiquement on devient esclave de cette personne-là, à un niveau quelconque. On peut écouter une personne. Alors la différence entre croire une personne et écouter une personne, c'est comme blanc et noir. Un type comme moi qui fonctionne sur un plan de vibration différent de la normale humaine, de la psychologie humaine, peut facilement travestir la réalité. C'est très facile de servir de cobaye à des forces que souvent on ne comprend pas. Le type qui me rencontre ne sait pas ça. Le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. Moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter, si c'est intéressant ça va, si c'est banal ça va, mais de ne jamais croire. Il ne faut pas croire des gens comme nous. Il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles. Il faut les écouter et les accepter si on se sent bien avec eux et les foutre à la porte si on se sent mal. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur le triangle des Bermudes. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Il est consistant, il est bon. Ça va, on est à l'aise, c'est vibratoire, il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et on est dans le temps, là, où ça se produit et où ça va se produire encore plus.
Oui, il y a beaucoup de faux prophètes ou de vrais prophètes qui prévoient que pour d'ici la fin du 20e siècle, ce soit des guerres.
Les faux prophètes, les vrais prophètes, ça revient à justement à ce que je dis. Autrement dit, les prophètes ou les psychiques ou les gens qui vont à la télé, parce qu'on a de la télévision, les gens qui sont connus dans le monde font quelque chose. Mais souvent, ces gens-là ne savent pas ce à quoi ils ont affaire sur les autres plans. Parce que, je vous donne un exemple. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne, durant ce temps-là, ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. On ne peut pas se permettre de croire. Et dans le temps qui vient, on ne peut pas se permettre de croire même les extraterrestres. Parce que ce sont les gens qui peuvent foutre la patente en l'air le plus vite possible. Et je mets la population en garde contre ça. Surtout les gens sensibles, les gens qui sont voyants, les gens qui se promènent dans l'astral et tout ça. Il faut une intégration de la personnalité. Il faut être sûr de soi-même.
Les deux pieds sur terre.
Les deux pieds sur terre. Je comprends qu'il y a des gens qui prennent des fuites vers les mondes spirituels. Et ça, c'est normal, parce que quand on commence à être touché, on devient spirituel. On veut faire du bon, on veut aider l'humanité. Mais éventuellement, on doit redescendre et prendre racine dans la terre et garder la tête où elle est pour qu'il y ait une balance. Et à ce moment-là, on peut faire un travail qui est normal, qui est sympathisant et qui ne chambrante pas les choses pour rien.
Maintenant, le rôle des individus, je pense que maintenant on le saisit très bien. Le rôle du Québec en tant que groupe.
Le Québec, dans la destinée des nations, a une place particulière qui est cachée encore. Elle ne peut pas être dévoilée, cette place, parce qu'elle affecte toute la vie du Québécois, toute la vie des Québécois. Mais, et en plus de ça, c'est pas tout de suite, il y a tous les conflits mondiaux, il y a aussi le contact entre notre planète et les civilisations avancées. Alors, il y a beaucoup de choses concernant le Québec. Mais, pour donner un appui qui a déjà été mentionné avant par d'autres personnes, le Québec a une importance capitale dans l'évolution de la sixième race de l'homme.
Est quasi exclusif au Québec ou
non,
ailleurs sur la Terre?
Non, parce que c'est mondial.
C'est mondial.
Oui, seulement qu'il y a un centre d'énergie à Québec qui est dans l'éthérique d'ailleurs, qui est vu et qui est connu par des gens qui peuvent aller dans l'éthérique. Et ce centre d'énergie-là et directement en relation avec deux autres points sur la planète Terre, dans l'éthérique, où sont établis les laboratoires scientifiques de la sixième race.
Et ces deux autres points, est-ce qu'on peut les connaître?
Oui, on peut les connaître, ces points-là, si on a les vibrations. Il faut pouvoir pénétrer dans cette dimension vibratoire-là pour voir les laboratoires, parce que les laboratoires sont dans le sous-sol de la Terre.
À l'intérieur de la Terre, l'Agartha.
Ils sont, je ne vais pas dire si c'est l'Agartha, je vais dire qu'ils sont dans l'intérieur de la Terre. Parce qu'il y a Shambhala, il y a Agartha, ce sont des concepts hindous qui ont été amenés dans le monde occidental. Et il y a des rapports de personnalité cosmique entre ces points de civilisation cachés et un cercle auquel j'appartiens, et c'est pour ça que je ne vais pas parler de ce cas. Mais les laboratoires de la sixième race sont dans l'invisible, et sont imprenables, ils sont intouchables. Et les gens qui vont et qui iront dans ces laboratoires-là, iront par le biais du corps éthérique, comme les extraterrestres se promènent d'une dimension à l'autre.
On a l'air de faire pitié, nous, sur la surface de cette Terre. Il se passe beaucoup de choses en dehors de nos perceptions.
La planète Terre, présentement, est dans un état de mort. Et elle sera éventuellement revitalisée. Mais la planète Terre présentement meurt, sur tous les plans. Et l'homme n'a plus la conscience créative et la volonté créative et le pouvoir créatif de lui redonner la vie. La conscience doit être totalement altérée. D'ailleurs, l'astral de la planète Terre sera détruit lorsque le nouveau cycle commencera. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens pourront voir directement avec leurs yeux dans l'éthérique.
Mesdames et messieurs, nous venons d'entendre Bernard de Montréal, l'invité vedette d'ésotérisme expérimental des années 70 à 90-95. On comprend plus facilement aujourd'hui son discours. À l'époque, il faisait fureur parce que les gens découvraient tout cet univers de la parapsychologie, du phénomène extraterrestre. J'ai l'intention de vous le faire entendre encore et encore au cours de la saison à cette station du mieux-être. Car se poser des questions sans avoir de réponse, je pense qu'on ne se sent pas bien. On veut avoir des explications. Même si, comme lorsqu'on était enfant, on posait des questions à nos parents et parfois on ne saisissait pas toujours l'ampleur de la réponse qu'ils nous apportaient, mais avec la voix du cœur, on comprend l'essentiel. Cette émission est disponible en podcast que vous pouvez réécouter quand bon vous semblera. Et on la retrouve aussi sur le site régulier d'ésotérisme expérimental sur Internet. N'oubliez pas nos rendez-vous du samedi soir au canal Orandia TV sur YouTube, O-R-A-N-D-I-A TV, qui vous permet d'entrer en contact avec nous, avec moi-même, par téléphone, à la ligne ouverte qui est faite tous les samedis soirs de 8h à 9h30, juste avant la reprise de la diffusion de cette émission le samedi soir de 10h à 11h, la première diffusion étant le vendredi soir de 18h à 19h. C'est un rendez-vous toutes les semaines. Au plaisir de vous rencontrer lors de nos rencontres-conférences qui ont lieu toujours le dimanche qui suit le premier vendredi de chaque mois à Montréal, au cégep de Maisonneuve, tout l'après-midi. Et pour les gens de la région de Québec, c'est le premier vendredi du mois à l'Université Laval, au pavillon Vachon. À bientôt!